Vous écoutez, on lit pour vous.
Connexion, facturation et navigation. Un texte d'Alain McKenna, paru le 15 avril 2026 dans La Presse. Guylaine Dion, une lectrice, demande « Je reçois par moments des demandes de connexion répétées avec mon compte Apple d'endroits dans le monde où je ne suis jamais allé. Ça m'inquiète. Comment y mettre fin ?» Ironiquement, et sans nécessairement sabler le champagne, on peut dire que ces messages sont en fait une bonne nouvelle. Ils prouvent que votre système de sécurité fonctionne. Ces tentatives répétées signifient qu'un pirate possède votre adresse courriel et votre mot de passe, et qu'il tente d'ouvrir votre compte depuis l'autre bout du monde. Heureusement pour vous, et malheureusement pour lui, la double authentification d'Apple agit comme elle se doit de le faire. Le malfaiteur a la clé, mais il n'entrera pas sans votre permission. Il est possible que votre mot de passe ait fuité sur le web obscur après le piratage d'un autre site web. Les pirates essaient les mêmes combinaisons partout. Ils ont donc frappé à la porte de votre compte Apple. Pour mettre fin à ce manège, la solution est simple. Allez manuellement modifier ce mot de passe dans vos réglages de compte Apple. Une fois la serrure modifiée, la vieille clé des pirates deviendra inutile. Les alertes cesseront. Évidemment, choisissez un nouveau code complexe. Continuez de refuser toute demande de connexion douteuse. Vous garderez ainsi le contrôle total de votre vie numérique. Luc A. Janson, un lecteur, demande « Comment arrêter la facturation automatique sur ma carte de crédit d'application qui se renouvelle chaque année sans que j'intervienne? » L'économie numérique repose lourdement sur notre distraction. Les créateurs d'applications adorent le renouvellement automatique car ils misent en partie sur notre oubli pour facturer une année supplémentaire. Vous pouvez reprendre le contrôle sans manipulation technique complexe. Cela exige un simple changement d'habitude. Abonnez-vous, puis désabonnez-vous sur le champ. Dès un premier achat effectué, visitez les paramètres de l'application ou du service. Sur un iPhone, touchez votre nom au sommet de l'écran, puis allez dans la section des abonnements. Sur Android, cette section se cache dans le menu du Play Store. Vous y verrez la liste de vos paiements récurrents. Touchez l'application désirée et annulez le renouvellement. Cette action ne bloque pas votre accès de façon subite. Vous conserverez l'usage complet du service jusqu'à la fin de la période payée. Au bout de l'année, l'application cessera simplement de fonctionner. Pour continuer à l'utiliser, vous devrez volontairement repasser à la caisse. Faites de cette annulation immédiate la deuxième étape essentielle de chaque achat. C'est une excellente décision financière qui vous permettra de payer moins pour vos services numériques, quels qu'ils soient. Sylvain Bilodeau, un lecteur, demande « ChatGPT me propose le navigateur web Atlas » qui demande l'accès à mes mots de passe, favoris et historiques de navigation. Puis-je lui faire confiance? L'intelligence artificielle est formidable pour rédiger un texte, mais son rôle de bonne conseillère pour naviguer sur le web reste à prouver. Encore plus quand il est question de cybersécurité. Les modèles de langage comme ChatGPT souffrent d'hallucinations et peuvent recommander des logiciels obscurs, obsolètes ou même dangereux avec un aplomb souvent trompeur. Dans le monde des navigateurs web, Chrome, Safari ou Edge dominent pour une bonne raison. Leurs équipes de sécurité travaillent fort pour corriger leurs failles. Atlas? OpenAI n'est pas un acteur reconnu de cette industrie. Un nouveau navigateur demandera l'accès à votre historique de navigation et tentera d'importer vos données pour vous simplifier la vie. La mécanique est normale, mais cela équivaut à donner les clés de votre maison et vos relevés bancaires à un nouveau voisin à sa simple demande. Si ce navigateur cache une faille, toute votre vie numérique sera compromise. C'était Connexion, facturation et navigation. Un texte d'Alain McKenna, paru le 15 avril 2026 dans La Presse.
Près de 2,5 millions en dommages pour une victime d'inceste. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir. Une juge du Québec a accordé une somme de près de 2,5 millions de dollars en dommages à une victime d'inceste agressée sexuellement par son père dès l'âge de 5 ans. La femme, dont l'identité est protégée par ordre de la cour, est aujourd'hui adulte. Elle a poursuivi son père au civil pour les nombreux et graves dommages qu'elle a subis en conséquence des agressions commises dans les années 1980. Le père, qui a maintenant 75 ans, a reconnu avoir posé des gestes à caractère sexuel à l'encontre de sa fille, mais seulement à trois occasions en 1982. Peut-on lire dans la décision récente rendue par la juge Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure du Québec. La demanderesse nie cette version des faits. Elle soutient avoir été agressée sur une période de 5 ans, sur une base régulière. Enfant, elle sera éventuellement hospitalisée en pédopsychiatrie en 1987. C'est à ce moment qu'un psychiatre découvre les abus et pose un diagnostic pour les troubles de l'enfant qui a alors 10 ans. Le tribunal constate qu'il aura fallu attendre plusieurs années avant que l'horreur que vivait X soit révélée au grand jour et que des mesures soient prises pour la protéger et lui fournir de l'aide. De graves dommages. Évidemment, écrit la juge, et comme c'est souvent le cas dans des situations incestueuses, il n'y a pas de témoin des agressions. Toutefois, divers éléments de preuve, tels que les dossiers médicaux et les bulletins scolaires, permettent de constater que la version des faits relatée par X demeure hautement plus probable que celle offerte par le père. Écrit la juge Lalande. Parmi les nombreuses notes apparaissant au dossier médical de la fillette, une note consignée quand elle a 8 ans indique que son hymen est perforé. La crédibilité du père est faible, voire nulle, poursuit la magistrate. Elle ajoute que les nombreuses consultations médicales de l'enfant pour divers problèmes à ses organes génitaux, ne laisse planer aucun doute sur les fautes commises par le père. Quant aux dommages, la juge rappelle que les infractions d'ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui leur causent un tort immense. La juge accorde ainsi à la demanderesse 2 160 000 $ pour compenser ses pertes pécuniaires, 250 000 en dommages moraux pour le préjudice émotionnel et psychologique, notamment, et 10 000 $ en dommages punitifs. La somme de quelque 2 millions de dollars, fondée sur une preuve actuarielle, vise à la compenser pour ses pertes de salaire passées et futures, car les agressions ont eu des conséquences considérables sur ses études et donc sur sa capacité à gagner sa vie. Elle a connu des troubles d'apprentissage et des échecs scolaires, en plus de nombreux problèmes de santé physique et psychologique, dont un trouble de stress post-traumatique, des idées suicidaires et un grave trouble de l'anxiété et de dépression. De plus, l'octroi de dommages-intérêts punitifs est nécessaire dans le présent cas afin de marquer publiquement la réprobation morale des comportements incestueux et d'assurer pleinement leurs fonctions de prévention, punition, dissuasion et de dénonciation. Conclut la juge. C'était près de 2,5 millions en dommages pour une victime d'inceste. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir.
Le réseau scolaire du Québec est encore à l'école des saints. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir. Une école québécoise sur trois, soit 750 des 2370 établissements publics et 200 privés, porte le nom d'un saint, d'une sainte ou d'un groupe sanctifié, la Sainte Famille, les saints martyrs canadiens. Il faut ajouter les autres innombrables références religieuses de Notre-Dame à Jean Eudes. Du point de vue de la toponymie, la déconfessionnalisation du réseau scolaire reste une très grande illusion. À lui seul, Saint-Joseph a droit à 60 mentions dans la banque de données du ministère de l'Éducation. Son fils putatif, Jésus, s'y retrouve comme enfant, comme adulte, avec sa mère porteuse, Externa Mon Jésus-Marie, par son Sacré-Cœur et son Saint-Nom, deux fois. La maman du Dieu incarné apparaît elle aussi en plusieurs déclinaisons. En reine du clergé, comme Sainte-Marie, une dizaine de fois, par son Saint-Cœur, en médiatrice ou en Regina Assumpta. L'impériale agionomie, le fait de désigner quelque chose du nom d'un saint vaut pour toute la toponymie québécoise. Le territoire compte aussi plus de 500 municipalités sur environ 1125, dont le nom commence par saint ou sainte. Dans le Lot, il y a Sainte-Apolline de Patton, dans Chaudière-Appalaches, qui honore une martyre morte en 249 à Alexandrie, et sa voisine régionale Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, nommée en l'honneur d'une mégalomartyre native de Calcédoine, maintenant une banlieue d'Istanbul, morte décapitée après de nombreuses tortures en 305. Mais cette affirmation ultra-dévote, plongeant ses références sur 2000 ans et jusqu'à l'autre bout du monde, signale en même temps la négation de beaucoup d'autres possibilités de reconnaissance par le nom des lieux. Le système scolaire québécois boude ainsi très largement ses refondateurs de la Révolution tranquille et les rejetons les plus admirables de son activité pédagogique, ses artistes, ses gens de lettres, ses scientifiques, ses gens engagés dans le monde sociopolitique. Paul Gérin-Lajoie, qui a été le premier ministre de l'Éducation dans les années 1960, a trois établissements. Monseigneur Alphonse Marie Parent, qui a dirigé la commission de réforme du système de l'éducation, a une école à son nom à Longueuil. Et c'est tout. Aucun des membres de la commission ne jouit de cet honneur, pas même le sociologue Guy Rocher, décédé en 2025. Par contraste, en France, la mémoire de Jules Ferry, fondateur dans les années 1880 de l'école laïque, gratuite et obligatoire, est honorée par 624 écoles, collèges et lycées, soit plus d'un établissement sur 100 de la République qui en totalise environ 58 500. La seconde place de la nomenclature revient à Jacques Prévert, commémoré 375 fois. Cette faveur s'explique par la popularité du poète au moment de la construction massive d'écoles, après le baby-boom qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un effet paroissial. Je trouve savoureux l'exemple de Jacques Prévert, raconte la professeure d'histoire Brigitte Collier, éduquée en France. Chaque jour, on avait une récitation d'un de ses poèmes. Il fallait les calligraphier dans nos cahiers et faire un beau dessin pour l'illustration. Prévert est devenue la grande idole littéraire des enfants. Elle lisait et illustrait ses poèmes à l'école primaire portant le nom de sa petite ville de la banlieue de Paris. L'établissement a été rebaptisé plus tard en l'honneur de Robert Doisneau, photographe humaniste mort en 1994. Madame Collier a rencontré un Québécois pendant ses études doctorales, a immigré et est devenue professeure spécialiste de l'histoire socio-religieuse du Québec à l'Université Laval. Elle rappelle que, ici, la confessionnalité du nom des écoles s'explique par leur rattachement d'origine à une entité paroissiale. L'école publique portait le nom du saint patron de sa paroisse, dit celle qui a récemment piloté l'élaboration d'un atlas historique du Québec portant précisément sur les écoles, paru aux presses de l'Université Laval en 2023. J'aime faire le parallèle avec les caisses populaires qui ont aussi pris le nom des paroisses, dit-elle. La forte densité agionymique des villes et des villages est aussi le résultat de la constitution de municipalités au 19e siècle appuyée sur la dénomination des paroisses, alors centrale dans la vie des communautés. Les anciens établissements scolaires employaient d'ailleurs des instituteurs et des institutrices de communautés religieuses qui pouvaient chérir les références aux héros de leur monde spirituel. On peut aussi parfaitement comprendre certains établissements de vouloir conserver leur prestigieuse marque de commerce. Qui voudrait sérieusement changer le nom de l'École des Ursulines de Québec, fondée en 1639, ce qui en fait une des plus vieilles des Amériques, ou du Collège Jean de Brébeuf de Montréal, qui compte parmi ses diplômés Robert Bourassa, Pierre-Éliott Trudeau, le juge Richard Wagner, Jean Coutu et Hubert Reeves. Viva Mexico! L'autrice Chantal Ringuet préfère comparer le Québec au Mexique, autre société marquée par la religion, mais dont la composante autochtone est beaucoup plus forte. Les Mexicains ont conservé des noms de saints et aussi des noms autochtones, dit la touche-à-tout de la culture, qui a écrit sur Leonard Cohen, traduit des textes du yiddish et récemment imaginé une carte du métro de Montréal au nom de station entièrement au féminin. C'est déplorable qu'on ne bouge pas plus ici. Je ne pense pas que beaucoup de personnes regretteraient aujourd'hui de voir disparaître certains noms de l'espace public. Lesquels? Pie IX. Une école montréalaise et un boulevard majeur honorent ce pape réactionnaire par excellence du 19e siècle, finalement contre tout progrès, du féminisme à la démocratie. Lionel Groulx, le chanoine historien, a droit à un cégep et à une station de métro malgré ses positions antisémites et misogynes. Le débat public est important dans toutes les questions de toponymie, enchaîne Madame Ringuet, sans prendre position sur ces deux noms. Il faut réfléchir ensemble pour avancer sur ce terrain miné. Jusqu'à quel point peut-on réécrire l'histoire et comment adapter la mémoire en suivant l'évolution de la société? En tout cas, moi, je suis vraiment pour qu'on change certains noms d'établissements scolaires et de rues. Au Québec, une douzaine d'écoles du primaire et ou du secondaire rendent hommage à Félix Leclerc, parfois par la dénomination de l'immeuble d'un campus. C'est l'exception qui confirme la règle générale de l'oubli et de la négligence des vedettes culturelles. Gabriel Auroi a quelques mentions et a la reconnaissance d'une poignée de bibliothèques. Anne Hébert n'est honorée qu'une fois par le réseau scolaire québécois. Leonard Cohen ne l'est pas. Il y a moins de monde et de création d'écoles depuis des décennies, mais ça n'excuse pas de ne pas choisir des patronymes dans la vie culturelle, les noms des créateurs, des auteurs et des créatrices encore plus, dit la professeure Brigitte Collier. Évidemment, ce qui est vrai pour les hommes tient encore plus pour les femmes. Beaucoup d'écoles des dernières décennies ont reçu des noms fleurs bleues, de l'envolée et autres tournesols. Les désignations des garderies reflètent aussi cette vision bonbon et gna-gna de l'enfance. Le ministère de l'Éducation explique dans une réponse par courriel que la responsabilité du nom des écoles incombe au centre de services scolaires. À l'évidence, les constructions neuves font plus d'efforts pour reconnaître des créateurs remarquables. Une nouvelle école secondaire de Saint-Jérôme rend ainsi hommage à Gaston Miron depuis 2023. Charles Ringuet soulève en terminant la lourdeur administrative du processus menant à une nouvelle désignation, qu'il s'agisse d'une école ou d'une rue. Ça prend énormément de temps avant d'obtenir un consensus. Je note aussi que ces comités de toponymie ont tendance parfois à élire des gens un peu conservateurs qui veulent conserver tous ces noms de saints. Pourtant, on en a tellement qu'on pourrait en larguer. C'était « Le réseau scolaire du Québec est encore à l'école des saints », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir. Semer la résilience climatique dans son potager. Un texte de Julia Miles, paru le 3 avril 2026 dans La Presse. Depuis 25 ans à Kamouraska, Patrice Fortier-Sommer cultive des variétés ancestrales de plantes pour les adapter au climat nordique du Bas-Saint-Laurent et en récupère les semences qu'il distribue grâce à son entreprise, la Société des plantes. Une toute petite semence peut-elle être porteuse de solutions pour lutter contre les changements climatiques? Ma prise de conscience quand j'ai démarré la Société des plantes, c'est qu'on ne pouvait plus juste se fier aux meilleurs endroits dans le monde pour produire des semences, dit-il. Un désir de s'installer dans le Bas-Saint-Laurent, un intérêt pour les plantes et les légumes et le besoin de lutter contre la perte de biodiversité l'ont mené à lancer ce projet au tournant des années 2000. Semences ancestrales, patrimoniales, le sens des deux expressions est le même. Ces termes désignent les variétés à pollinisation libre cultivées depuis plusieurs décennies, généralement plus de 50 ans. Elles sont dites patrimoniales car elles proviennent souvent d'un héritage familial transmis de génération en génération. Patrice Fortier évoque les années 1990, avant même la création de la Société des plantes, une époque durant laquelle la perte de diversité végétale était alarmante. Alors que l'agriculture industrielle s'implante, des variétés locales disparaissent, remplacées par des cultivars hybrides adaptés à un mode de production industriel. Aujourd'hui, 42% des plantes en agriculture sont des espèces menacées, selon le plus récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'agriculture, telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est l'une des activités humaines qui ont le plus d'impact sur la planète, explique Bernard Lavallée, nutritionniste et vulgarisateur derrière l'entreprise de semences, le Nutritionniste Urbain. En plus d'affecter la biodiversité, la monoculture rend l'humain plus vulnérable en matière d'insécurité alimentaire. Lorsqu'une seule espèce est cultivée, tous les plants risquent de subir les mêmes dommages. Elle est donc plus susceptible d'être ravagée par les maladies ou les insectes nuisibles, explique Bernard Lavallée, citant la grande famine irlandaise de 1845 à 1849 en exemple. Cette famine s'est produite lorsqu'une maladie a décimé les pommes de terre, un aliment dont les Irlandais étaient dépendants. Elle a causé près d'un million de morts. On récolte ce que l'on sème. Le processus de production des semences est sélectif. Patrice Fortier ne récolte que les graines des plants qui ont survécu et prospéré dans les conditions dans lesquelles ils ont poussé. Même dans les endroits où on n'a pas le climat idéal, estime Patrice Fortier, on doit trouver des façons de faire de la graine de qualité. Pour ça, il faut réinventer un peu le métier, les techniques et les calendriers. Par la sélection, les semenciers mènent l'espèce à développer les traits qu'ils recherchent. Une résistance au froid, des fruits plus sucrés, une tolérance plus forte aux maladies. Les semences ont une mémoire. Elles conservent les traces génétiques de leur meilleure qualité et les reproduisent lorsqu'elles sont de nouveau semées. L'avantage des semences ancestrales réside dans leur diversité génétique, estime l'écrivaine Lynn Bellemare, auteure du livre « Cultiver la mémoire sur l'histoire du patrimoine végétal québécois » et fondatrice de Terre Promise, une autre entreprise spécialisée dans les semences anciennes. Cette variabilité-là permet une adaptation au changement climatique, à l'environnement, aux nouveaux ravageurs, explique-t-elle. Savez-vous planter des choux? Ma mission, c'est de transmettre le pouvoir aux citoyens de récolter leurs propres semences. Ce n'est pas à moi de les garder comme semencière, explique Lynn Bellemare. Elle constate que ce sont souvent les petites semencières qui portent seules la tâche de préserver certaines variétés en voie de disparition. À l'heure où ces entreprises tentent de survivre dans un contexte économique difficile, leur fermeture équivaut à la fin de ces espèces. « Je veux pouvoir prendre ma retraite », lance-t-elle en riant. « Notre patrimoine est fragile. Il se perd », affirme Bernard Lavallée. « Beaucoup des semences menacées ne sont conservées que par une poignée d'individus. Ça doit reposer sur les épaules de plus de monde. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une seule personne sauve notre patrimoine », indique Bernard Lavallée. Récemment, Patrice Fortier a créé sa propre variété de choux. Le chou branchu de l'embarras, à partir de 3 autres cultivars. Comme lui, des centaines de citoyens dans le monde ont créé de nouvelles tomates au piment en utilisant d'autres graines ancestrales existantes. 30 ans après avoir fondé la Société des plantes, sur fond de perte de diversité végétale, il se réjouit du renouveau amené par ces variétés ancestrales contemporaines. Les variétés du patrimoine servent à créer les variétés du futur. L'importance de les conserver est grande, pas juste pour les reproduire à l'identique, mais comme base de développement génétique, constate-t-il. C'était « Semer la résilience climatique dans son potager », un texte de Julia Miles, paru le 3 avril 2026 dans La Presse.